Bonjour, nous poursuivons notre méditation de carême sur le thème « Vivre libre ». Aujourd'hui, nous regarderons une couleur particulière, « Vivre libre pour discerner ». C'est dans notre vie quotidienne bien réelle que nous sommes appelés à vivre libre. Il nous faut donc prendre en compte les pesanteurs et les ambiguïtés de cette vie. Ne rêvons pas d'une illusoire liberté chrétienne qui nous mettrait au-dessus de la mêlée et nous ferait accéder à un monde quasi transparent. Non, c'est dans ce monde tel qu'il est que notre liberté est appelée à s'exercer. C'est dans la vie réelle que le Seigneur désire nous rejoindre, cette vie qu'on peut appeler la vie mêlée, car beaucoup de choses s'y mêlent de façon pas toujours très nette. Mon collègue et ami Étienne Grieux en a parlé de manière très suggestive, je le cite, « Dans notre religion, il n'y a rien de pur, rien que l'on puisse opposer de manière franche et nette à un impur qui serait, lui, radicalement inapte à recevoir la visite de Dieu. » Étonnant ? Pas du tout. Le lieu naturel de la révélation chrétienne, c'est la vie mêlée, celle où tout est mélangé, où l'on ne comprend pas grand-chose, où l'on est souvent déçu, où l'on ne sort jamais tout à fait des malentendus et des tensions. Jésus le Galiléen était en ces lieux-là comme un poisson dans l'eau, et savait y reconnaître le don du Père. C'est que la vie divine est bien autre chose pour les chrétiens qu'un morceau de ciel tombé sur terre. Tout comme le récit biblique, elle passe par les hommes, y compris par leur soif, leur tâtonnement, leurs erreurs. Rien d'étonnant dès lors que la vie mêlée soit son lieu de prédilection. Pour sentir en ouvrant ses mains la promesse d'une réconciliation, il faut avoir serré les poings. Pour se livrer à la parole heureuse, il faut savoir quel peut être le poids du silence. Pour entendre les appels comme une promesse, il faut connaître la tentation de rester sourd. Dans l'icône de la résurrection, on voit le Christ qui, sans doute d'un grand coup d'épaule, a fracassé les portes du séjour des morts. C'est ainsi qu'il ouvre dans l'humanité un passage vers le Père, en faisant voler en éclats les verrous et les barres. Du coup, tout ce qui nous divise, nous sépare, nous oppose, tout ce qui est injuste ou blessant, peut être vu comme ce qui appelle le passage de Dieu. Se tenir en ces lieux difficiles, c'est se porter à un rendez-vous en un endroit insolite et signifié par sa simple attente qu'ici une rencontre doit advenir. Raisonner en ces termes conduit à élargir le spectre de ce qui sous-tend l'engagement des croyants. Lorsque je prends au sérieux la vie de mon quartier, de ma commune, de mon entreprise. Lorsque je me dépense pour une association ou une section syndicale, ce n'est pas seulement pour être au clair avec moi-même et réjouir ma conscience. Loin d'être une simple question de cohérence et d'éthique, on peut y déceler aussi un rendez-vous d'ordre sacramentel, un rendez-vous avec celui qui sait trouver des passages là où l'humanité se complique. Ce texte d'Étienne Grieux nous rappelle que la foi chrétienne nous invite à ne pas rêver d'un monde pur. Cette invitation résonne avec une force particulière aujourd'hui où des jeunes se radicalisent à cause d'un rêve de pureté. Quand je lis des témoignages de jeunes radicalisés ou sortis de la radicalisation, je suis frappée par la place quasi obsessionnelle qu'occupe chez eux le thème de la pureté, en lien avec la quête de l'absolu. Il s'agit de vivre sa religion de manière pure, de se séparer de ce monde impur, société de consommation, etc. Or, l'histoire, à commencer par la Révolution française chez nous, nous apprend que la quête de pureté peut conduire au projet de purification de la société qui peut lui-même conduire à la terreur. L'enjeu d'accepter de vivre dans la vie mêlée est donc un enjeu immense. Il en va de notre capacité à construire des relations simples et fraternelles avec des gens différents de nous, qui ne sont certes pas parfaits, mais nous non plus. Étienne Grieux précise que Jésus était à l'aise dans cette vie mêlée, faite de malentendus et de tensions, où l'on ne comprend pas tout, où on est souvent déçu. Et il ajoute, « Jésus savait y reconnaître le don du Père. » Avec cette phrase, nous commençons à entendre la petite musique du discernement. Comment reconnaître le don du Père dans les relations et situations multiples, variées de nos vies. En effet, le discernement se fait toujours dans la vie mêlée, entre deux choses bonnes. Laquelle est la meilleure dans le contexte qui est le nôtre? C'est quand les choses ne sont pas claires que le discernement joue vraiment son rôle. Et il demande une véritable liberté intérieure. Liberté pour tenir debout dans la vie mêlée, pour ne pas la fuir, ne pas se réfugier dans un rêve de pureté. Liberté pour reconnaître nos propres connivences avec les ambiguïtés et les tensions de cette vie mêlée. Liberté pour laisser le Christ élargir notre cœur, le mettre au large par rapport à nos attachements désordonnés dont nous avons parlé la semaine dernière. Cette liberté n'est pas un donné tout fait, elle grandit et s'affermit peu à peu. Le discernement fait grandir notre liberté et nous aide à repérer les zones de notre vie où nous ne sommes pas vraiment libres. En effet, nous pouvons nous laisser empêtrer sur ce chemin de discernement. La métaphore de l'obscurité versus la lumière est ici intéressante. Notre discernement peut être obscurci, de même qu'il arrive que notre œil soit obscurci. Jésus lui-même fait le rapprochement. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 22-23, « La lampe du cœur, c'est l'œil, » dit-il. Juste avant, Jésus a parlé du vrai trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si nous remontons encore dans ce chapitre 6 de Matthieu, nous trouvons le passage sur l'aumône, la prière et le jeûne, le texte que nous lisons au début du carême, avec l'invitation à ne pas agir pour l'apparence, mais dans la confiance que ton Père est là, dans le secret, il voit dans le secret et il te le rendra. Il y a un lien entre tous ces passages du chapitre 6 de Matthieu. En effet, l'expression « ton Père voit dans le secret », c'est aussi une question de regard. Ce qui me fait dire « notre trésor est caché dans le secret du cœur, dans le secret de la relation intime avec le Père. Et ça, c'est un trésor dans le ciel que personne ne peut nous enlever. C'est le Père lui-même qui veille sur ce trésor-là. Mais ton œil, que regarde-t-il? Cherche-t-il le regard des hommes ou celui du Père qui voit dans le secret? Reprenons l'image, la lampe du cœur, c'est l'œil. L'œil est une lumière qui permet de voir les choses comme si c'était lui qui les éclairait. Si l'œil est sain, il éclaire le monde et il voit l'invisible, c'est-à-dire le regard du Père. Alors, toute la personne se trouve plongée dans la lumière de ce regard. Mais si l'œil est malade, il ne peut rien éclairer. Il ne voit ni le regard du Père, ni le piège caché dans l'attachement anxieux au regard que les autres peuvent poser sur nous. Toute la personne est alors plongée dans la nuit. Ce n'est pas le regard des autres, admiratif ou envieux, qui éclaire et dirige notre existence. C'est seulement le regard du Père, intime et aimant. Invitation à découvrir le trésor qu'aucun voleur ne peut nous ravir. Ce trésor, c'est la liberté intérieure, la liberté du cœur que le Christ nous donne. Ce qui peut obscurcir notre discernement, c'est un certain manque de liberté intérieure, un repli sur nous ou un attachement au regard que les autres peuvent poser sur nous. Le discernement suppose à la fois d'être plongé dans la vie mêlée qui est la nôtre et de pouvoir prendre par rapport à elle une certaine distance intérieure. On pourrait aussi appeler cela une certaine hauteur de vue. Je ne suis plus le nez sur le guidon ou collé à mes propres intérêts, un regard plus large peut m'habiter. C'est ce que le pape François appelle « sortir de soi » pour aller savourer l'air pur du Saint-Esprit qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes. Il dit cela dans la joie de l'Évangile. Cette sortie de soi est déjà en elle-même une libération. Discerner, cela suppose d'être en chemin vers la liberté intérieure. En effet, Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes, des jouets entre les mains de son bon plaisir, mais il nous veut profondément libres. Il désire que nous inventions notre vie avec lui. Il nous arrive de nous demander « Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Quelle est sa volonté ?» La volonté de Dieu pour nous n'est pas écrite à l'avance, dans une sorte de destin. La réponse que nous allons donner à Dieu n'est inscrite à l'avance nulle part. Simplement, l'amour de Dieu nous précède et espère une réponse libre de notre part. La foi chrétienne nous invite à la liberté, c'est-à-dire à la créativité. Va et toi aussi fais de même, dit Jésus au légiste à la fin de la parabole du bon samaritain. Fais de même. Il ne dit pas fais exactement la même chose. Il ne dit pas imite le bon samaritain. Car nous ne sommes pas tous les jours sur la route de Jéricho à rencontrer des blessés. Mais fais preuve de la même disponibilité, de la même imagination que ce Samaritain en voyage, qui est suffisamment libre par rapport à ses projets pour se laisser arrêter et retarder. Cette liberté intérieure dans la manière de discerner la volonté de Dieu rejoint ce que disait le pasteur allemand résistant à Hitler, Dietrich Bonhoeffer, dans une de ses lettres de prison. Il disait « Tout ce qui arrive n'est pas simplement la volonté de Dieu. Pourtant, à travers chaque événement, même s'il n'a rien à voir avec le divin, il y a un accès à Dieu. » Cette phrase est remarquable. Je la commente. On ne peut pas dire que la volonté de Dieu, c'était que Hitler arrive au pouvoir, que Bonhoeffer soit jeté en prison, ou que j'ai tel accident ou telle maladie. Tout ce qui arrive n'est pas simplement la volonté de Dieu, mais à travers tout ce qui arrive, j'ai la possibilité de me tourner vers Dieu et de vivre avec le Christ. Le désir de Dieu, c'est que je trouve un chemin pour vivre ces événements, si durs soient-ils. Les vivre avec lui, en tenant debout, dans une certaine liberté intérieure. Cela est très libérant. Je n'ai plus à voir Dieu comme un juge qui m'envoie telle bonne nouvelle pour me récompenser, ou tel problème pour me punir, ce qui entraîne la question classique « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Non. Le Père nous donne, si nous accueillons son esprit, de vivre toute situation avec le Christ. cela ouvre une espérance que nous pouvons entretenir par une qualité d'attention au quotidien et par la fidélité à la prière. L'amour de Dieu nous précède et espère une réponse libre de notre part. Par exemple, pour décider d'un choix de vie ou pour un engagement important, donner sa vie à Dieu, ça ne conduit pas à aliéner ce que nous sommes, mais à nous recevoir nous-mêmes de Dieu comme acteurs de notre vie, en capacité de liberté et de discernement. Je viens d'évoquer la figure de Dietrich Bonhoeffer. C'était un homme de discernement qui a vécu dans une époque particulièrement troublée et difficile. C'était vraiment la vie mêlée. Et beaucoup de ses compatriotes, d'ailleurs, n'arrivaient pas à démêler les fils de ce qu'il fallait faire, de l'attitude juste à avoir. Dans un texte qui figure au début du recueil « Résistance et soumission », un texte qu'il a écrit en 1943, 10 ans après l'arrivée de Hitler au pouvoir, et juste avant d'être arrêté et emprisonné, Bonhoeffer écrit que le mal apparaît sous la figure de la lumière. Le mal se déguise en bien. Le pasteur protestant touche ici, sans le savoir, une règle importante de discernement, selon saint Ignace. Le titre que ses amis ont choisi, après sa mort, pour éditer ses lettres de prison, c'est « Résistance et soumission ». Résistance au mal, confiance en Dieu et soumission aux événements qu'on ne peut pas changer mais qu'on peut essayer de vivre avec souplesse et dans la liberté intérieure. Bonhoeffer ne veut tomber ni dans une résistance forcenée et stérile, un peu comme Don Quichotte, ni dans une soumission prématurée et pieuse au mauvais sens de l'adjectif. L'abandon à Dieu se situe au-delà de ces deux attitudes opposées, dans une démarche de foi souple et responsable qui s'adapte aux circonstances. C'est un homme qui a conjugué son engagement politique, il faisait partie de la conjuration qui projetait de se débarrasser de Hitler, avec une foi adulte, un homme de responsabilité et de discernement, habité par une profonde confiance en Dieu. Sa question de fond, c'était « Comment agir de manière juste, sans aliéner notre liberté, dans un contexte plein d'ambiguïté, où le mal se déguise en bien ?» Il exprime dans des formules fortes ce paradoxe d'une remise de soi qui fait vivre de manière responsable. Je le cite. Il nous reste le chemin très étroit et parfois presque introuvable de prendre chaque journée comme si c'était la dernière et pourtant de vivre dans la foi et la responsabilité comme s'il y avait encore un grand avenir. Vivre de manière responsable, c'est ne pas abandonner l'avenir à l'adversaire, c'est ne pas se décourager, mais aussi savoir supporter les revers. c'est ne pas céder à la lassitude. Celui qui parle ainsi sait que sa vie est brisée. Il est en prison, en attente d'être jugé et exécuté. Mais il ne se laisse pas ronger par l'amertume. Il garde la confiance de voir encore ce qu'il y a de beau et de grand dans l'humanité. Est-ce que c'est là un destin exceptionnel ? Oui, dans un sens. Dans la fulgurance de son cheminement, il est mort jeune, à 40 ans. Ainsi que dans la grande capacité à trouver des mots pour dire ce qu'il vivait. Mais il nous montre sans doute, comme avec une loupe grossissante, ce que nous pouvons vivre de façon plus modeste, plus discrète, c'est-à-dire la liberté intérieure pour accueillir la vie avec ses joies et ses difficultés et y discerner les appels de Dieu. Pour terminer, nous allons chanter comme une prière « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. »
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.